Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal. Lievin Mbwinga Vubu à la présentation.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce soir, la province de la Tchopo, affectée par le choléra, le gouverneur de province Paulin Lendongolia l'a officiellement déclaré hier lundi. En tout cas, le bilan actuel fait état de 292 cas, dont 57 décès. Des échantillons sont envoyés à l'INRBE à Kinshasa. Inondation à Kinshasa, la SENCO satisfaite de l'intervention rapide du gouvernement en faveur des sinistrés de dernière pluie. Le président de cette structure, Mgr Fulgence Muteba, vous allez l'entendre, encourage les organisations humanitaires à suivre cet exemple des autorités politico-administratives. Et puis cette interrogation, comment prévenir la ville de Kinshasa des dégâts liés aux inondations ? Kouete Minga Kon-Pierre, âgé de 83 ans, est résident depuis 1992 du quartier de Bonhomme, l'un des plus touchés par les inondations du week-end dans la capitale. Répond à cette question, il est notre invité. Bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, l'épidémie de choléra officiellement déclarée dans la Tchopo, annonce du gouverneur de province, 57 décès et plus de 290 cas déjà notifiés depuis le mois de février dernier. Le gouverneur Paulin Lendongolia l'a déclaré hier lundi dans la soirée au cours d'un café de presse. Selon le rapport des services techniques, de 20 échantillons envoyés à l'INRBE à Kinshasa en février dernier, 3 cas se sont avérés positifs. Tout en sollicitant l'appui d'urgence du gouvernement central, Paulin Lendongolia exhorte ses administrés à l'observance stricte des mesures d'hygiène de l'eau et des aliments. Explication avec Jacques Moukonkolé.
Le premier cas du choléra a été détecté en février dernier à Loa, dans le territoire d'Ubundu, en amont du fleuve Congo. Entre le 24 février et le 2 mars dernier, cette infection diarrhéique s'est propagée dans d'autres zones de santé rurale, notamment Wanyerukula et Yakusu, ainsi que dans la zone de santé urbaine de Makiso. Actuellement, la situation devient de plus en plus inquiétante, déclare l'autorité provinciale. 292 cas sont enregistrés, dont 57 décès, d'où cet appel à l'appui du gouverneur de province.
De la gravité de cette situation, je déclare officiellement l'épidémie de choléra dans la province de la Tchopo. Face à cette urgence sanitaire, nous lançons un appel à l'action. Nous sollicitons l'urgence, l'appui du gouvernement central, de nos partenaires de santé et des organisations humanitaires pour renforcer notre capacité à contenir et à éradiquer cette épidémie.
Par ailleurs, il insiste sur la nécessité d'observer strictement les mesures d'hygiène. À ceux qui seraient atteints, le gouverneur leur conseille de se rendre rapidement dans une formation médicale la plus proche pour des soins appropriés. Enfin, Paulin Lendongolia déclare que des mesures supplémentaires seront prises ultérieurement pour renforcer la riposte contre cette épidémie. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Le poste de santé de Kingonze, situé à proximité du site des personnes déplacées en Ituri, presque en panne. Il éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement. Pas de médicaments ni d'autres intrants pour les soins. Conséquence, la prise en charge de malades en majorité des personnes vulnérables devient un calvaire. Autre effet, c'est la montée des cas de décès parmi les déplacés. Martial Kizabiamungu a visité ce mardi cette structure sanitaire. Voici son reportage.
Construit en bois en forme d'une maison verticale au moins 15 mètres de longueur et 5 mètres de largeur, le poste de santé de Kigonze a été érigé à cet endroit en 2021 par Caritas. C'était pour répondre à une urgence, à savoir venir en aide à des milliers de personnes déplacées qui affluaient vers Bounia en fuyant les attaques de la Côte d'Ego dans leur village en territoire du Djougou. À ce jour, cette structure ressemble à un dépotoir. Devant nous, une petite pièce qui sert de salle d'accouchement. On y trouve un petit lit, quelques ciseaux posés sur une table. Pas de pinces, ni de gants ou produits stérilisants. Juste à côté, un petit berceau, presque un lambeau, qu'on utilise pour l'observation des nourrissons. Dans la petite salle d'hospitalisation, c'est le même décor triste. Deux petits lits amortis, presque pas de lumière. Des conditions qui ne permettent pas à une bonne prise en charge des malades, dont la majorité sont des déplacés des sites de Kigonze. Ces derniers se livrent à l'automédication, séculaire. Les expose à toutes sortes de risques. La responsable plaide pour une intervention rapide pour sauver des vies humaines. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Autre actualité, la conférence épiscopale nationale du Congo salue l'intervention rapide du gouvernement en faveur des sinistrés des inondations de dernière pluie qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Le président de cette structure de l'Église catholique, Mgr Fulgence Muteba, a exprimé cette satisfaction dans une déclaration dont une copie est parvenue ce mardi à Radio Kapi. La SENCO encourage ainsi les organisations humanitaires à suivre l'exemple des autorités politico-administratives en volant au secours de ces familles touchées par cette catastrophe naturelle. Les détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Dans son message de compassion, Mgr Fulgence Muteba, président de la SENCO et archevêque métropolitain de Lubumbashi, a exprimé la peine de l'Église catholique à la suite des souffrances des populations des zones gravement sinistrées. Il appelle les familles victimes de ces inondations et boulements de terre de se sentir rassurées de leurs prières. Ses prélats catholiques demandent également à ces personnes à reprendre courage et espoir malgré les dégâts matériels et pertes en vies humaines subies. Mgr Fulgence Muteba ajoute, je cite, que le Seigneur ressuscité pense les plaies des blessés et redonne courage et espoir à tous ceux qui ont perdu leurs biens, qu'il console les familles endeuillées et accorde repos éternel aux victimes. Fin de citation. Il regrette seulement qu'en cette même période, que la RDC soit confrontée aux catastrophes naturelles ainsi qu'aux guerres et autres calamités. Face aux conséquences dramatiques des récentes inondations survenues à Kinshasa, de nombreuses figures de la société civile ont donné de la voix. Certaines parmi elles recommandent notamment l'adoption d'un plan d'urgence coordonné pour prévenir des futures catastrophes naturelles.
Et puis, situation humanitaire difficile également pour les plus de 600 personnes sinistrées de dernière pluie dans la commune de Kisenso, ici dans la capitale. Parmi elles, de nombreux enfants. Elles sont regroupées dans 3 sites dans différents quartiers. Ces sinistrés ont absolument besoin d'assistance, nous dit Godefroy Atuel, bourgmestre de cette commune. Certaines attendent que les eaux baissent pour retourner chez elles, tandis que d'autres n'ont plus d'abri. Godefroy Atuel décrit la situation au micro de Benjamin Moudoumbi.
Maintenant, nous sommes à 4 morts. Un mort pour le quartier d'Indigne, 2 morts pour le quartier Ntsola et 1 mort pour Kinshasa. 3 morts sont déjà enterrés. Il nous reste un seul. Et les sites de sinistrés, nous les avons répartis en 3. Il y a un site pour Dingidingi, un site pour anciens combattants et un site pour Kisenso-Ga. En attendant, la situation évolue tout doucement, mais c'est déplorable. Ce sont des centaines de familles ou des milliers de personnes qui sont sans abri, qui sont vraiment en difficulté. Et nous espérons que le gouvernorat provincial va réagir dans sa paix.
Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale à Uvira, sa visite de plus hier dans cette ville du Sud Kivu, a permis de clarifier la marge de responsabilité de Wazalendo vis-à-vis des FRDC dans la région. Le VPM accuse certains acteurs politiques ressortissants d'Uvira qui, une fois à Kinshasa, prétendent parler au nom des Wazalendo, mais qui en réalité ne recherchent que leurs intérêts personnels. Désormais, les Wazalendo dépendent exclusivement du coordonnateur national de la réserve armée de la Défense. Le général Padiri Boulenda a martelé le vice-premier ministre lors des échanges avec les représentants de différentes couches dans la ville d'Uvira, devenue le siège des institutions provinciales du Sud Kivu depuis la prise de Bukavu par les rebelles du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise. Un acteur de la société civile qui a participé aux échanges nous en donne ici l'essentiel.
Le gros du message du VPM, c'était de venir fortifier et voir la situation qu'il y a ici à Uvira. Et il a présenté le plan du gouvernement et le programme et l'intention de libérer le territoire occupé par l'ennemi. Il a commencé par les cérémonies de remise et reprise entre le commandant région sortant et le commandant entrant. Et après, il a rassemblé la notabilité, les Wazalendo, les jeunes, les femmes, les sociétés civiles dans la salle où nous avons présenté les mots en lui montrant notre inquiétude du délaissement du gouvernement depuis presque 2 mois déjà, depuis la prise de Bukavu. Nous lui avons présenté comment ils peuvent délaisser les Bazalendo qui ont résisté et faire que Uvira ne soit pas tombé entre les mains de l'ennemi. Et il a présenté les regrets de comprendre qu'il y a certaines personnes, des politiciens d'Uvira qui font déjà le système Bazalendo un business. Là-bas, on leur donne de l'argent et ils viennent ici, ils ne donnent absolument rien.
Notez aussi qu'une dizaine de civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués en l'espace seulement de 2 semaines dans le territoire d'Irumu. C'était lors des attaques des présumés rebelles des EDF. Des structures de la société civile précisent ce mardi que les victimes sont tuées à leur domicile ou dans leur champ à la machette ou à l'aide des fusils. Ces organisations déplorent enfin ce qu'elles qualifient de léthargie des opérations Tchouja contre les EDF dans cette région de l'Ituri. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
La situation sécuritaire reste préoccupante dans plusieurs entités du sud du territoire d'Irumu, reconnu comme l'épicentre des exactions des rebelles des ADF. D'après des acteurs de la société civile locale, au moins 5 incursions de ces hors-la-loi ont été enregistrées la semaine dernière, à l'issue desquelles de nombreux civils ont perdu la vie et leurs maisons incendiées par les assaillants. Ils citent par exemple les cas du groupement Banda Vilemba où 8 civils ont été tués dimanche à la machette. Un autre cas similaire a été signalé dans les villages Soko Tano et Kandoui, où des sources locales parlent d'un mouvement des populations observé depuis lundi dans la zone. L'ONG Coalition Associative Résolue pour la Défense des Droits de l'Homme, Coardo, dit constater avec regret l'absence des opérations Shuja contre les ADF dans la région, son coordonnateur John Kihimba.
Il y a la présence des Ougandais, mais qui n'informe rien actuellement. Nous sommes en train de nous demander une question. Pourquoi la présence de la mutualisation des forces de la Wallis-Vukutu, quand bien même ils ne font pas de patrouilles de combat?
L'administrateur du territoire d'Irumu précise que les opérations Shuja sont toujours en cours. Le colonel Siro Simba parle toutefois du relèvement de certaines unités combattantes qui ont été redéployées ailleurs pour des opérations. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis, criminalité en hausse à Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, des maisons cambriolées, des personnes blessées à coups de machette et de nombreux biens emportés et une femme violée. Ceci se produit dimanche dans le quartier Ewaborankombo. La société civile tire la sonnette d'alarme et plaide pour le renforcement de la sécurité pour la protection des populations et de leurs biens. D'autres détails avec Peter Lunda, coordonnateur urbain de la nouvelle société civile congolaise. Il est joint par Jean Gandou.
Plusieurs maisons visitées par les malfrats non autrement identifiées vers 3h du matin. Derrière l'école Bernice, l'autre côté des rails, les biens des valets ont été emportés. Ces gens étaient en possession des armes blanches. Ils ont frappé à coups de machette quelques personnes. Nous demandons que le gouvernement, les services compétents puissent vraiment ouvrir l'œil. Et nous avons aussi fait les plaidoyers auprès des autorités compétentes pour que le Souciat soit installé dans le quartier Ewaborankombo. Il y a des endroits non habités, une brousse conservée, non exploitée. Nous lançons à corps et à cri cette demande que la paisible population puisse être encadrée.
Notez que l'une des personnes blessées a été transférée à Lubumbashi pour des soins appropriés à cause de son cas jugé préoccupant. L'information confirmée aussi par le maire de Kasumbalesa. Parlons de cette déclaration des syndicats des magistrats. Il faut résoudre le problème d'indiscipline qui mine notre justice et s'assurer de l'encadrement des jeunes magistrats qui entrent dans le métier. C'est une des attentes des syndicalistes quant aux résolutions qui sortiront des travaux de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature qui se tient à Kinshasa depuis hier lundi. Réagissant au discours inaugural de ces travaux prononcés par le président de la République, l'intersyndicale des magistrats de la RDC salue plusieurs avantages obtenus du gouvernement, notamment la prime de brousse des magistrats, l'assurance santé et la prise en charge des funérailles des magistrats. C'est dans les bruits d'ambiance et des accolades des participants à ces assises que le secrétaire général de l'intersyndicale des magistrats, Henri Dianda, s'est confié au micro de Jeff Ngoy. Suivez.
En ce qui concerne le chef de l'État, son discours a été très équilibré et il a non seulement dit ce qu'il a pu faire pour que la magistrature de ce pays puisse aller de l'avant, mais également
il a insisté sur la moralité,
tout à fait l'intégrité. Il faudrait qu'il puisse avoir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et que cela puisse tenir pendant ces assises ici. Je parle comme syndicaliste là pour ce qu'on a pu obtenir aujourd'hui avec l'assurance maladie pour les magistrats ainsi que les obsèques et tout. Et le chef de l'État a insisté également sur la rotation motivée des magistrats. Les magistrats ne doivent pas être en un seul point.
Maintenant, quelles sont vos attentes par rapport à ces assises?
Non, mais nous attendons à ce qu'au sortir de ces assises, que l'on puisse résoudre, discuter des questions essentielles, des questions épineuses qui minent notre justice.
Comme quoi, par exemple?
Non, mais je dis l'indiscipline, par exemple. Parce que nous ne disons pas qu'il y a toujours des avantages. L'indiscipline. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un lot de 5000 qui arrivent. Mais il faudrait assurer leur encadrement. Il faudrait non seulement leur encadrement, comme ça, leur formation, qu'ils puissent rentrer dans la discipline d'un corps, qu'ils sachent qu'ils appartiennent à un corps.
Actualité internationale.
Au Nigeria, un influenceur écope de 6 mois ferme pour avoir jeté des billets durant un mariage. Il a été condamné ce 7 avril à 6 mois de prison ferme pour avoir jeté ses billets. Le traditionnel Naira spraying, autrement dit, le fait d'asperger des invités de billets de Naira, la monnaie nationale, est de plus en plus fermement réprimé dans le pays.
L'invité.
Pour préserver la ville de Kinshasa des dégâts liés aux inondations, il faut non seulement du courage, mais aussi un poids politique significatif. C'est l'avis de M. Kouete Minga, Colm Pierre, âgé de 83 ans et résident depuis 1992 du quartier de Bonhomme, l'un des plus touchés par les inondations du week-end dans la capitale. Selon lui, la solution à ce problème réside dans une intervention ferme des autorités pour mettre la population à l'abri. M. Kouete Minga, Colm Pierre s'entretient ici avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Kouete Minga Colm, bonjour.
Bonjour Madame Rosalie.
Vous êtes parmi les notables de ces quartiers parce que vous habitez ici depuis plus de 30 ans. Pour vous, c'est un quartier qui au départ ne devrait pas être habitable.
Ce terrain au départ, c'était une ferme de Monsieur Pierre de Bonhomme qui habitait au niveau de la deuxième rue avec ses travailleurs. Avec la zarianisation, il a été obligé de lotir son ancienne ferme et de couper en parcelles. Il y a des gens qui ont acheté directement ces parcelles chez lui. Il était encore vivant. Mais c'est un terrain insalubre. L'administration coloniale belge l'avait classé parmi les terrains qu'on ne peut pas lotir pour l'habitation. Mais évidemment, avec la mentalité des Quinois, ils ne voyaient pas qu'il y avait un danger de lotir un terrain comme celui-ci et d'y construire des maisons. Et cela a continué. Il y a des habitations qui sont construites sur des vrais marais. D'ailleurs, le nom officiel de notre quartier de Bonhomme, c'est quartier des marais, effectivement. On ne peut pas aller construire des habitations dans des marais. Surtout, peut-être que les spécialistes savent qu'il faut certaines précautions, mais je ne crois pas que ces précautions ont été prises.
Avez-vous des souvenirs des inondations dans la ville de Kinshasa?
Oui. Bon, le souvenir des inondations dans la ville de Kinshasa, c'est lui qui m'a le plus marqué, c'est le vendredi 29 mai. Retenez bien le mois, au mois de mai, le 29 mai 1990, il y a eu plus de 150 morts d'inondation dans la ville de Kinshasa. Et là, ce n'était pas de ce côté de l'Est, mais à Bandalungwa, le long de la rivière Makelele. Si maintenant il y a un pont qu'on appelle Lundabululu, c'est parce qu'à cette époque, Lundabululu était premier ministre et les ponts qui existaient à cet endroit étaient déchués. Laissé par la colonisation belge, on a dû le détruire puisque quand il y a eu inondation, les eaux sont montées au-dessus du pont. Et à cette époque-là, le président Mobutu a dû révoquer, je ne vais pas citer son nom, le ministre de la Santé de l'époque. Et on a dû dénombrer, rien que le long de la rivière Makelele, à partir de Bandal jusqu'au fleuve, plus de 150 morts. Et on a construit le pont que vous voyez là. Maintenant, mais on ne devait pas s'arrêter là. Ah oui, j'ai oublié qu'on a délogé tous les habitants le long de Makelele. On leur a trouvé des parcelles dans la commune de Lancelé et on avait démoli, puisque beaucoup de maisons étaient même démolies par l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu des parcelles pour déménager, ils ont fait semblant de déménager, mais ils sont revenus sur le site. Et de temps en temps, à Makelele, il y a des morts.
Et maintenant, pour terminer, de manière globale, pour la ville de Kinshasa, c'est quoi la solution?
Bon, le mal étant déjà fait, on a loti des terrains qui ne devaient pas être lotis. Mais maintenant, je crois que les experts ont déjà fait des études pour assainir. Et là où il faut détruire, il faut détruire. Mais le fera-t-on? C'est ça ma question. Là où il faut démolir pour sauvegarder des vies humaines. Mais là, il faut avoir le courage et le poids politique. Vous savez qu'à un moment, les Français disent « trop de démocratie tue la démocratie ». On va vous dire « c'est illégal, c'est ceci ». Mais à un moment donné, il faut qu'on prenne des décisions des dictatures dans l'intérêt général.
Monsieur Kouetéminga Pierre, je rappelle que vous êtes habitant du quartier des Bonhommes depuis plus de 30 ans. Merci.
Merci, madame.
Voilà, ainsi se termine ce journal. Au nom de Pele Kipela Mondeu de Dieudonné Nyangassa, je vous dis merci de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur Radio Okapi.